Bonjour, Monsieur Pelletier.
Force est d'admettre que depuis notre dernière conversation, la situation ne s'est nettement pas améliorée pour la présence de pharmaciens en établissement, là.
C'est vrai, on a encore un défi de main-d'œuvre qui est extrêmement important en pharmacie d'établissement. On est encore aujourd'hui là à 284 postes vacants dans toute la province de Québec, là, ce qui nous donne un taux de pénurie de 19 %. Donc, presque une personne sur cinq qui est manquante là, sur les postes actuels.
Et de ce que j'ai pu voir pour l'Estrie, on est à 20 %, on est même au-dessus du taux provincial.
Oui, c'est exact. Pour la région de l'Estrie, là, vous êtes un petit peu au-dessus du taux avec 20 %, là, ce qui nous donne à peu près 19 personnes manquantes sur 90 postes dans votre région. Donc, c'est très, très significatif.
Et l'affaire, c'est qu'on est capable quand même d'identifier l'une des sources, c'est-à-dire que dans le processus de formation, le but pour la majorité des étudiants en pharmacie, étudiants et étudiantes, c'est le secteur privé.
Oui, une des sources, vous avez raison, c'est qu'on se distingue en pharmacie par le fait que dans les établissements de santé, on est une très, très petite proportion de toute la profession au Québec. La grande majorité, donc 73 % du groupe, se retrouve en pharmacie privée. Donc, oui, on a comme une compétition directe là, avec nos collègues pharmaciens propriétaires qui, eux aussi, ont besoin d'embaucher des pharmaciens pour faire rouler leur pharmacie, évidemment.
Oui. Mais là, le problème, c'est qu'on risque pas d'avoir des problématiques de médication dans plusieurs établissements. J'ai toujours le réflexe de penser au CHSLD, mais il y a aussi l'importance des pharmaciens en établissement dans plusieurs secteurs névralgiques du réseau de la santé.
Absolument. Là, je vous dirais qu'on surveille, nous, assez attentivement, plusieurs secteurs de soins où on voit qu'il y a des difficultés. Vous avez raison, le longue durée, c'est vraiment un des secteurs où ça prend davantage de ressources. Mais à l'hôpital, en soins aigus, on peut penser à la salle d'urgence, les soins intensifs, l'oncologie, des patients en cancer, malheureusement, il y en a de plus en plus. Et là, on a une difficulté aussi à avoir des ressources en nombre suffisant en oncologie.
Ouais.
Tu sais, toutes les unités de médecine interne, les patients qui entrent à l'hôpital aujourd'hui, ils ont un problème tellement important qu'ils doivent venir à l'hôpital. Autrement, ils resteraient à la maison, on s'en doute bien. Donc, c'est une situation qui est très complexe, très aiguë et souvent liée à la médication. Donc, ça prend absolument un pharmacien. Je vous parlais de la salle d'urgence à l'instant.
Ouais.
Il y a un pharmacien à la salle d'urgence. Quand le patient arrive et a une difficulté, d'abord, il va pouvoir commencer par regarder, nous, ce qu'on appelle notre bilan comparatif de médicaments. Fait qu'en termes clairs, là, je vais regarder tout ce que le patient prend, puis je vais me demander est-ce que ça se peut qu'il ait été admis pour un problème de médicaments. On parlait de CHSLD tantôt, toutes les personnes âgées ne sont pas au CHSLD.
Exact.
Alors, parfois, ils sont à la maison, il y a une chute, il y a un problème lié à un médicament, se retrouve à l'urgence. Alors, le pharmacien, il est là pour aider l'équipe médicale à identifier le problème.
Et la majorité du temps, d'ailleurs, il y aura une révision, des fois même presque complète, de la prise de médicaments pour plusieurs personnes, d'ailleurs, qui ne font pas réanalyser ou analyser de nouveau ce qu'ils consomment.
Bien, vous avez raison, parce qu'au fil du temps, on sait que la population vieillit, et puis au fil des années, bien, on a un médicament qui s'ajoute à un autre, puis à un autre. Et puis là, on se retrouve hospitalisé, soit pour un problème lié au médicament, soit pour autre chose. Et là, c'est vraiment utile d'avoir un pharmacien qui prenne le temps de se pencher sur la situation, de regarder tout le profil de médicaments du patient et de se dire, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Peut-être qu'on a besoin de tout ça, mais est-ce qu'on a toutes les bonnes doses? Est-ce qu'il n'y a pas une interaction quelque part qui pose problème? Et quand on n'a pas suffisamment de pharmaciens dans les équipes de soins, bien, ce travail-là, il est généralement pas fait, là.
Sauf que le problème, Mme Vaillant, force est de constater que cette mise en valeur de ce rôle primordial dans le réseau de la santé a manqué quelque part.
Oui, je pense qu'il y a un travail énorme à faire sur le recrutement, la promotion de cette profession-là auprès des étudiants en pharmacie. Parce que vous savez, on a quand même 400 gradués en pharmacie année après année de nos deux facultés de pharmacie au Québec.
Mm-hmm.
Mais ce qu'il nous faut, nous, à l'hôpital, c'est pas plus de gradués en pharmacie, c'est que parmi ces 400-là, on en est une centaine annuellement qui se dirigent vers la pharmacie d'établissement. Alors que présentement, on est plutôt autour de 70-75. Ça nous en prend 100 là, au minimum pour fonctionner. On parle même pas de rencontrer tous les besoins des patients, là, ce dont on décrivait tantôt, mais au moins combler les postes actuellement vacants. à 100 par année, ça irait mieux. Fait qu'il faut des activités de promotion. Il faut convaincre les étudiants en pharmacie de poursuivre leurs études pour faire la maîtrise qui va les amener vers la pratique en établissement de santé. Puis ça, il y a toutes sortes de moyens de faire ça. Mmh. Mais on a besoin que le ministère nous aide et mette en place des mesures en face de la promotion puis accentue les efforts de recrutement.
Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, et je ne veux pas, utiliser le terme passage obligatoire, là, mais on a vu ça dans d'autres domaines où, à la suite de la diplomation, on incite les gens à passer par le réseau public avant d'aller vers le privé. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou peut se faire?
Je pense que ça serait quand même assez difficile. Hein? Faut pas perdre de vue que les pharmacies privées, ça fait partie d'une force
oui.
économique importante au Québec. Là.
Oui, oui.
Je vois mal comment on pourrait dire demain matin, vous aurez plus de ressources, là, tout le monde va passer par le réseau public. Je pense que la réalité, c'est qu'il y a une compétition importante du secteur privé. On a besoin des pharmacies privées aussi. Là.
Oh,
je suis pas en train de mettre ça de côté, mais il faut qu'on trouve une façon d'amener les jeunes qui sont en pharmacie à poursuivre leurs études. Donc, il faut faire valoir que c'est une profession intéressante. Pour la valoriser, pour lui donner un salaire concurrentiel aussi et s'assurer qu'il y a des mesures qui les attirent.
Oui. Est-ce que les salaires, parce que probablement qu'il y a des gens qui voient d'ailleurs le privé comme étant beaucoup plus le Klondike qu'en établissement, là, y a-t-il tant une marge que ça?
Mais c'est très variable. C'est difficile de répondre à ça parce que les salaires varient constamment dans le secteur privé. D'une région à l'autre, ça varie beaucoup. Il y a un temps de réaction, il faut dire, aussi en pharmacie privée qui est plus rapide. Hein?
Ouais.
Si on a une difficulté avec la main-d'œuvre, rapidement, on se réajuste. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a une telle situation de pénurie. Quand ça a commencé dans les années 2000, on s'est retrouvé avec un écart salarial tellement immense entre le secteur public et le secteur privé que pendant plusieurs années, presque personne venait en pharmacie d'établissement.
Mm.
Alors, il faut surtout éviter de créer une situation à nouveau là, qui ferait en sorte qu'on aurait un tel écart. Fait qu'il faut minimalement être compétitif et surveiller de près là, ce qui se passe en pharmacie privée pour avoir un salaire qui est au moins aussi intéressant, pour que le jeune fasse le choix, pas strictement basé sur le salaire, mais sur la profession. Mais c'est sûr, quand on a un immense écart salarial, les jeunes ne sont pas intéressés à poursuivre leurs études pour gagner moins cher.
Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Donc maintenant, il faut maintenir un salaire compétitif, mais il n'y a pas juste le salaire. Il faut faire la promotion aussi de ce travail-là, qui est vraiment un travail intéressant, et le valoriser. C'est ça qui est important aussi.
Linda Vaillant, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.